Bonsoir. Le 1er mai de chaque année, le monde célèbre la Journée internationale du travail. À Kinshasa, en lieu et place du défilé, le ministre de l'Emploi s'est entretenu cette fois-ci avec les représentants des travailleurs à la place du cinquantenaire. Ces derniers lui ont exposé les difficultés qu'ils rencontrent. Quelle analyse faire de la problématique de l'emploi des jeunes et de la prise en charge des retraités en RDC? Pour en parler, nous recevons le ministre Modeste Bahati Lukwebo, ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance Sociale. Monsieur le ministre Bahati, bonsoir.
Bonsoir.
Guy Kolela Tshibangu, président de la Confédération syndicale du Congo et président de l'Intersyndicale nationale du Congo. Monsieur Kolela, bonsoir.
Bonsoir.
Alain Mputu, expert en ressources humaines et en planification stratégique. Monsieur Mputu, bonsoir.
Bonsoir, messieurs les journalistes.
Merci à vous, chers auditeurs et internautes, pour vos réactions. Ernest Miembo Kimpangus, au nord Katanga. Le chômage reste une réalité au Congo car les fonctionnaires retraitables s'accaparent toujours toutes les places au lieu de les céder aux jeunes, compte tenu de leur âge déjà avancé. Bref, pas de pension en RDC. Blaireau Kamanda associe là le manque d'encadrement professionnel des jeunes intellectuels et non intellectuels est à la base de plusieurs problèmes en RDC, dont celui des groupes armés dans notre pays. Bienvenue à tous dans votre émission.
Pour participer à l'émission, appelez les 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
La fête internationale du travail, c'était hier 1er mai. À Kinshasa, cette fois-ci, le ministre congolais de l'Emploi a choisi en lieu et place du défilé de s'entretenir avec le représentant des travailleurs à la place du cinquantenaire. À cette occasion, les syndicalistes de différentes entreprises congolaises ont exposé les difficultés que rencontrent les travailleurs. En province orientale, le président de l'intersyndicale de cette province a évalué les revendications faites les trois dernières années à l'intention du gouvernement par la masse ouvrière. Jacques Mébois et Longo se réjouit d'une certaine avancée de la part des pouvoirs publics, notamment l'impôt IPR que payaient les travailleurs au gouvernement et la bancarisation de la paye des agents. Toutefois, malgré ces différentes améliorations, le président de l'intersyndicale martèle que le pouvoir d'achat de la population reste encore bas. Voyons comment s'est déroulée cette journée du 1er mai dans certaines villes du pays avec vous, Guy Maté.
À l'Équateur, la Fédération des entreprises du Congo, FEC en sigle, hausse les tons pour la relance économique dans la province. Selon le président du conseil provincial des syndicats patronaux, les saluts tant attendus par la population résident dans l'amélioration du climat des affaires, d'où l'implication des autorités politico-administratives en vue de remédier aux problèmes prioritaires comme préalables de cette relance économique. Teddy Molondo, le nouveau président du conseil provincial de la FEC Équateur, l'a dit aux autorités et représentants des masses laborieuses. À Kananga, au Kasaï occidental, la journée du 1er mai a été commémorée dans la méditation. Le ministre provincial du Travail a invité les employeurs et travailleurs à plus de rigueur, de discipline et d'enthousiasme dans tout ce qu'ils ont projeté d'entreprendre dans le cadre de leurs activités. À Bounia, en province orientale, des centaines de travailleurs de la fonction publique et fonctionnaires de l'État éprouvent d'énormes difficultés pour honorer leurs factures de soins à l'hôpital général de Bounia. Cette situation est consécutive au pouvoir d'achat très limité de ses agents. Information donnée ce mercredi à Bounia par le médecin chef des zones de santé de cette cité à l'occasion de la Journée mondiale du travail. Les bureaux du personnel actif de l'Ituri expliquent cette situation par la défaillance du gouvernement central qui n'arrive pas à assurer les soins médicaux des agents et fonctionnaires de l'État. Pour pallier à cette situation, le docteur Pascal Mboukana demande à ses agents d'adhérer aux mutuelles de santé opérationnelles à Bounia.
Merci Guy Maté. Monsieur le ministre Modeste Bahati Lukwebo, je rappelle que vous êtes ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance Sociale. Monsieur le ministre, pour commencer, quel sens vouliez-vous donner à cette journée en renonçant au défilé, au traditionnel défilé, au profit de l'entretien avec les syndicalistes?
Oui, d'abord, nous voudrions éviter tout ce qui est folklorique. Deuxièmement, il fallait que cette journée soit réellement une journée de communication directe entre les travailleurs, les employeurs et le gouvernement. Or, vous êtes d'accord avec moi que dans le passé, on a toujours classé les syndicats à la queue de ceux qui doivent défiler. Conséquence, Il passe d'abord après tout le monde, très fatigué après avoir attendu longtemps. Et quand on leur donne la parole pour passer leur message, en ce moment-là, personne ne les suit, personne ne fait attention à ce qui est dit. Or, ce qui est dit est très important parce que pour nous, c'est un baromètre qui nous permet de savoir si réellement il y a moyen d'espérer à une paix sociale durable. Et donc, hier, nous avons voulu que cette fois-là, on puisse rompre avec les mauvaises habitudes du passé et communiquer directement. Et vous avez vu vous-même dans quelle belle ambiance la cérémonie s'est passée. Le rassemblement a eu lieu. Tout le monde a suivi le discours du président de l'intersyndicale nationale quand il a présenté son cahier de charges. La réponse que j'ai donnée, tout le monde l'a bien suivi, et le mot de clôture du vice-premier ministre qui représentait le premier ministre. Et donc, vous avez vu qu'à la sortie, tout le monde était pratiquement satisfait pour avoir bien suivi, et on n'a pas passé beaucoup d'heures là-bas. 2 heures ont suffi et on a communiqué. Nous avons plus insisté sur la valeur du travail. Et les travailleurs l'ont dit en rappelant la parole biblique qui dit que vous ne mangerez qu'à la sueur de votre front. Nous-mêmes, dans notre communication, nous avons insisté sur le fait qu'il faut que les gens travaillent, qu'ils aiment le travail et qu'ils fassent un bon travail, et que cette affaire d'horaire fixé arbitrairement pour arrêter le travail à 16 heures, que ça s'arrête. Parce qu'il faut que nous puissions travailler. Volume de travail dépend, disons la production dépend du volume de travail. Si vous travaillez peu, vous allez produire peu et donc vous aurez peu de revenus. Quand il y a peu de revenus, il est évident que on gagne peu parce que la marge bénéficiaire est calculée sur le chiffre d'affaires. L'État qui doit prélever les impôts va en pâtir. Les travailleurs qui devaient avoir les retombées vont en souffrir. Voilà pourquoi nous avons voulu innover, non seulement en communiquant directement, mais en prêchant pour un travail de qualité bien fait.
Merci, Monsieur le Ministre. Entre-temps, je vous demande si vous avez une radio à côté, de l'éteindre. Vous nous suivez sur votre téléphone parce qu'on a un retour ici à l'antenne. Monsieur le Ministre, vous insistez.
En tout cas, je n'ai pas de radio.
Je vous en prie. C'est possible que c'est...
J'ai éteint la mienne. Hein?
Merci, Monsieur le Ministre. Ça pourrait être un problème de réseau de communication. Monsieur le Ministre, vous insistez sur le fait qu'il fallait communiquer directement avec les travailleurs, les syndicalistes hier, mais on sait que cette communication entre gouvernement et syndicats en tant que partenaire doit être permanente. Quelle était la spécificité hier?
Hier, la spécificité, c'est que d'abord, on a fait honneur aux travailleurs. Ce sont les travailleurs qui ont été les premiers à prendre la parole. Ce sont les travailleurs qui ont fait la proposition et que nous avons acceptée. Eh bien, nous avions pensé qu'il fallait plus honorer les travailleurs parce que c'est grâce aux revendications des travailleurs dans le passé qu'on a pu instaurer cette journée du 1er mai. Et deuxièmement, dans ma communication, lorsque j'ai parlé de réalisation de notre gouvernement, eh bien, vous savez très bien, vous avez suivi mon message de la veille, nous avons réalisé beaucoup de choses en peu de temps. Nous avons pu réunir des conditions pour qu'il y ait création des emplois. C'est vrai que compte tenu du fait que le chômage est très élevé, plus de 90% de la population active, il est évident que même quand on crée 30 000 emplois, on ne le sent pas. Mais c'est déjà quand même quelque chose dans un contexte aussi difficile comme le nôtre. Et donc, hier, j'ai dit que ce qui gêne également la paix sociale, ce sont les conflits sociaux. Parce que plusieurs dirigeants, ils croient que quand ils sont à la tête des entreprises, ça veut dire que tout leur est permis, un peu d'orgueil, ils ne respectent pas les dispositions du code du travail. Conséquence, nous nous en trouvons là avec beaucoup de conflits de travail. Et c'est pourquoi nous avons dit, nous allons mettre tout en œuvre pour instaurer les tribunaux du travail. Merci. On commencera d'abord à Kinshasa dans les semaines qui viennent, et par la suite, on va les ouvrir dans les provinces.
Merci,
et
monsieur.
Donc, vous comprenez très bien que nous sommes en train de travailler, nous sommes à l'écoute des travailleurs, mais une fois de plus, je dois dire aux travailleurs que je ne suis pas le ministre qui défend seulement les travailleurs. Moi, je Merci. Défends d'abord l'entreprise, et puis je défends la législation sociale.
Merci, monsieur le ministre. Je vous redonne la parole tout à l'heure. Guy Kolela, vous êtes Tibangu, vous êtes président de la Confédération syndicale du Congo et président de l'intersyndicale nationale du Congo. Sous quel signe vous avez placé la célébration de la journée internationale du travail hier?
Oui, merci beaucoup pour m'avoir fait cet honneur d'être reçu dans vos installations de Radio Okapi. Je vais dire que ce qui s'est passé hier, ça a été une grande première. Une grande première parce que les travailleurs étaient au premier plan. Le gouvernement m'a honoré, a honoré la délégation syndicale, a honoré les syndicats pour dire que nous avions été les premiers à communiquer directement avec la base. Donc, pour nous, nous avions voulu vraiment que cette fête-là soit la fête des travailleurs. Il y a eu beaucoup de malentendus, tout ça, mais nous nous disons que ça a été une réussite.
Alors, à cette occasion, on l'a suivi, vous avez exposé les difficultés que vous rencontrez en tant que travailleur. Quelles sont ces difficultés?
Effectivement, c'est comme cela que nous avions dit que la journée du 1er mai, d'abord, c'est en mémoire de ce qui s'était passé à Philadelphie, mais au deuxième plan, nous qui vivons, que devrions-nous faire? C'est cela que nous avions remis le cahier de revendication après l'avoir lu et que les travailleurs aient entendu, que nous avons remis à son Excellence, Monsieur le Ministre, pour qu'à son tour, avec le gouvernement, ils puissent voir dans quelle mesure ils vont apporter des solutions.
Alors, la journée, Guy Kolela, avait pour thème « Construire l'avenir avec le travail décent ». Oui. Dans ce cahier des charges, qu'est-ce que vous dites?
Oui, mais concrètement, quand nous parlons du travail décent, mais nous avons évoqué, par exemple, le problème de la sous-traitance. Ça pose problème. Je ne cite aucune entreprise, mais sachez que quand vous circulez dans les entreprises, vous pouvez trouver un effectif de 500. Sachez que très peu ont un contrat à durée indéterminée. Ce sont des violations. Et quand vous allez même dans des usines, nous avons parlé de nos frères expatriés qui sont venus investir et nous nous sommes dit ils ne respectent pas notre législation. Ce sont des problèmes que nous avons posés au gouvernement dans notre cahier de revendication. Nous avons évoqué le problème des agents et cadres de la DGRAD, de la DGI, de la DGC, disons bref des régies financières qui étaient révoquées. Et nous avons demandé que le gouvernement puisse avoir une oreille attentive afin d'apporter des solutions. Nous avons posé le problème du dialogue social. Le dialogue, il y avait un cadre, mais d'une manière unilatérale, on avait décidé que ce cadre-là soit mis de côté. Mais moi, je me dis, j'évoquais l'arbre par l'arbre dans notre pays. Nous sommes africains, il faut toujours parler, il faut toujours échanger. Et je crois que dans les échanges, peu à peu, on aura des solutions. Et c'est ce que nous sommes en train de faire avec le ministère du Travail, Emploi et Prévoyance Sociale.
Emmanuel Bella nous écrit de Dungu en province orientale. Il dit, au lieu de célébrer cette journée, il faudrait plutôt être en deuil en RDC, Guy Kolela.
Oui. Effectivement, nous avons gardé une minute de silence pour nos amis qui sont à l'Est. Mais ne vous en faites pas. Une manière de célébrer, de lire un discours, de prononcer un discours plutôt, et que tous les travailleurs ont communiqué avec nous, je crois que c'est encore mieux que de rester dans la méditation. On médite quoi? On dit quoi dans sa tête? Mais nous avons apporté un message. Et les travailleurs ont entendu, ils ont dit bis, ils ont dit reprenez, devant les membres du gouvernement, nous l'avons fait. Je crois que c'est mieux que de se taire, que de méditer. On médite quoi? On médite quoi? On a toujours parlé de la méditation.
Alors, vous savez que cette émission a deux parties. Nous parlons d'abord de l'emploi des jeunes, de la problématique de l'emploi des jeunes et de la question des retraités. Nous y reviendrons également avec le ministre tout à l'heure, Guy Kolela. Entre-temps, en RDC, environ 80% de la population active vit dans le secteur. Elle se trouve dans le secteur informel. Le taux de chômage est de plus de 73%. Ça, c'est un rapport publié par l'OCDE, le PNUD, CEA, BAFD, intitulé « Promouvoir l'emploi des jeunes, perspectives économiques en Afrique 2012 ». Qu'est-ce qui, d'après vous, qu'est-ce qui fait qu'en RDC, les jeunes n'ont pas accès à l'emploi?
Non, je voulais d'abord dire que hier, le 1er mai, ne vous en faites pas. C'est de l'informel et tel. Nous encadrons ces deux marchés. Nous encadrons des menuisiers. Nous encadrons des cambistes. Ils étaient là. Peut-être parce que c'était juste le polo. On n'a pas indiqué l'entreprise, mais ils étaient là. Mais je vais plus loin pour dire que nous ne faisons plus le syndicalisme des gens qui ont évité, ont crié. On est professionnel dans le syndicat. Et dans le syndicat, ce sont les différentes catégories. Et ces catégories, entre autres, vous avez les jeunes, vous avez les étudiants que nous encadrons. Ici, je parle comme président de l'intersyndical, j'utilise le nom majestueux, j'ai dit que nous encadrons parce que il faudra arriver à expliquer aux étudiants qui demain aspireront à travailler pour dire, il y a aussi des organisations syndicales, voici comment nous fonctionnons, voici ce que nous faisons. Nous le faisons. Mais je me dis que il y a du travail à faire, il y a du travail.
Alors, le même rapport que j'ai cité tout à l'heure révèle que 9000 jeunes sortent des universités congolaises chaque année et moins de 100 accèdent à un emploi. Pourquoi d'après vous?
Oui, il y a un problème. Il y a un problème. Ne nous voilons pas la figure. Aujourd'hui, vous avez des entreprises, je ne cite pas des noms, qui doivent envoyer leur personnel en retraite. Mais ils sont incapables de supporter le frais de retraite. C'est un problème. Il y a des entreprises pour lesquelles l'agent, il est là, on l'a retraité, mais il continue à percevoir le salaire dans l'entreprise. Dans l'entretemps, on lui dit, nous attendons quand nous allons réunir ta cagnotte pour te dire maintenant nous nous séparons. Je pense que tout ça, ce sont des problèmes que nous rencontrons sur terrain. Et nous discutons avec les employeurs pour dire non, il faudrait que ça s'arrête. Je ne cite pas, mais j'ai dit il y a une entreprise aujourd'hui, quand vous circulez, vous voyez, on a écrit partout, on est vente, on l'a vanté, mais parce qu'il avait une fois pris son courage pour dire, revisitons la convention, tout ce qui était budgétivore, on avait mis de côté, et on avait mis aussi en retraite ceux qui devraient partir. Parce que c'était des unités considérables. Or, dans une entreprise, quand vous prenez les actifs et les passifs, quand ça doit s'équilibrer à un moment donné, c'est qu'on ne gère pas bien.
Alain Poutou, vous êtes expert en ressources humaines et en planification stratégique. D'abord, un mot par rapport à la célébration hier de la journée du 1er mai en RDC.
Oui, je commence par féliciter d'abord Monsieur le ministre pour l'initiative qu'il a prise de suspendre les défilés. Vous savez, moi je trouve que ces histoires-là de défilés, par moments, ça crée des dépenses inutiles et parfois ça n'aboutit même pas aussi à la solution. Mais l'option qu'il avait prise hier, c'est une bonne option de confronter les gens, qu'ils entendent les observations, les avis de ces agents-là, afin qu'on puisse ensemble les voir qu'est-ce qu'il faut faire. C'était vraiment une très bonne initiative que le ministre avait prise par rapport à la journée d'hier.
Alors, Alain Poutou, par rapport à l'emploi des jeunes, ce n'est pas la première fois que vous intervenez dans cette émission. On sait que c'est une question qui vous tient à cœur. Le rapport que j'ai cité tout à l'heure, qui s'intitule « Perspectives économiques en Afrique 2012 », pour le cas qui concerne la RDC, ce rapport indique que les couches les plus touchées, c'est entre 15 et 25 ans, qui vivent en milieu urbain et qui sont très touchées par le chômage et plus de 80% de la population congolaise est au chômage, Alain Poutou.
Oui, je reviens à votre introduction. Vous avez dit que cette émission a deux volets. Il y a un volet prise en charge des personnes retraitées et la problématique de l'emploi des jeunes. Vous savez, monsieur le journaliste, par rapport à mon analyse, je trouve que le plus grand problème que nous avons en ce qui concerne le chômage, c'est au niveau d'abord de la politique stratégique d'emploi au niveau du gouvernement. Vous savez, lorsqu'on a une politique stratégique au niveau du gouvernement, la politique stratégique doit prévoir, n'est-ce pas, les indicateurs, les actions à mener, les moyens à mettre en place, les périodes pour chaque action à entreprendre et une période pour évaluer ces actions. Mais le fait qu'il n'y a pas la politique d'emploi, nous sommes en train, n'est-ce pas, de spéculer. Et cette politique d'emploi-là, normalement, doit prévoir quoi? Doit prévoir aussi la politique, le mécanisme de la retraite des fonctionnaires. J'ai même suivi ça il y a quelques mois passés à l'Internet. Certains inspecteurs des finances qui étaient même retraités en 2010, au mois de janvier, par l'ordonnance, vous vous rendez compte que j'ai appris qu'ils continuent à travailler jusqu'à aujourd'hui. Il y a des agents qui ont atteint l'âge de retraite. Mais quand vous parlez de la retraite aujourd'hui, ils ne sont pas d'accord. Ils ne veulent même pas entendre ça. Pourquoi? Parce qu'ils se disent, même si on n'est pas bien payé, vaut mieux qu'on reste ici que d'être retraité. Si on est retraité, qu'est-ce que nous allons devenir dans quelques années? Et après la retraite, qu'est-ce que nous allons devenir? Donc, dans la politique normalement de l'emploi, il devait avoir l'aspect de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Chaque année, on doit retraiter les gens afin que les nouveaux recrues, les nouvelles les agents puissent être, n'est-ce pas, recrutés. Mais tant qu'on ne retraite pas les gens, les nouveaux agents aussi ne peuvent pas être insérés. Mais les problèmes aussi des jeunes diplômés actuellement, monsieur le journaliste, c'est un problème qui a aussi plusieurs causes. La première cause, c'est ces problèmes-là que les gens qui travaillent là ne veulent pas aller à la retraite. L'État lui-même ne veut pas mettre aussi en place le mécanisme pour même les pousser par force qu'ils aillent à la retraite. Vous allez vous rendre compte, même un jeune, pour qu'il trouve un endroit pour passer son stage actuellement, mais ça devient un problème. En principe, l'État et les universités devraient avoir la même vision des choses. Les gens qui terminent à l'université peuvent aller dans des entreprises publiques ou passer facilement leur stage. Mais il y a des gens qui font des stages bloqués dans des universités. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas où aller passer les stages. Mais pendant que l'État, ces entreprises, devaient voir comment envoyer ces gens-là dans les stages. Et une autre cause, c'est quoi? C'est la problématique de l'inadéquation entre les cursus universitaires et les besoins réels des employeurs à la main-d'œuvre. Si vous essayez de regarder à l'Internet, vous verrez qu'il y a beaucoup d'offres d'emploi des ONG internationales. Vous regardez sur les alvéoles. Vous-même, vous travaillez dans des agences du système, dans des organisations internationales. Mais si vous essayez un peu de lire chaque offre d'emploi publiée, vous essayez de lire la description du poste, vous comparez ça avec les cours qui se donnent à l'université. Mais c'est comme deux mondes différents. C'est-à-dire, l'université ne veut pas faire un effort d'adapter son enseignement par rapport aux besoins réels. Parce que la formation, normalement, doit s'adapter aux besoins actuels et futurs de l'employeur. On forme les gens, on ne tient pas compte des gens qui doivent les consommer. Ce qui fait qu'actuellement, quand vous regardez les offres d'emploi, les ONG, ce sont eux maintenant qui ont les monopoles du marché de l'emploi. L'État lui-même, qui est la grande puissance, à ce niveau-là, l'État n'a pas les monopoles sur les marchés de l'emploi. C'est maintenant les ONG et les entreprises des multinationales. Ils lancent les offres d'emploi, ils demandent à ce que la personne puisse justifier une expérience professionnelle de 2 à 5 ans. Mais la plupart des gens qui cherchent du travail, monsieur les journalistes, ce sont des gens qui viennent fraîchement de l'université. Les 5 années d'expérience là qu'on leur demande, ils doivent les avoir comment? Et vous verrez que ces ONG-là, quand vous leur posez la question, pourquoi est-ce que vous demandez les années d'expérience, elles vous diront que nous dépendons des bailleurs des fonds qui nous ont financés. Nous courons derrière l'État, raison pour laquelle on ne préfère pas prendre un débutant. Alors l'État devait normalement récupérer ces débutants-là, voir comment les insérer, que ces gens-là aient de l'expérience. Merci. Mais tant que l'État n'a pas la politique d'emploi, les universités aussi ne veulent pas adapter leur formation par rapport aux besoins réels. Il y a des entreprises qui sont affiliées à la FEC. Est-ce que les universités ont posé la question à ces entreprises que chaque entreprise donne son secteur d'intervention afin qu'on puisse adapter les cours à l'université
par rapport
aux besoins réels du marché de l'emploi, de sorte que quand quelqu'un termine à l'université, facilement, il peut être utilisé
sur
le marché du travail.
Merci Alain Poutou. Monsieur le ministre Modeste Bahati, nous parlons de la problématique de l'emploi des jeunes. Monsieur le ministre, dans le rapport que j'ai cité tout à l'heure, on indique que parmi les raisons qui font que les jeunes aient difficilement accès à l'emploi, il y a notamment le réseau relationnel qui a une grande influence dans l'obtention d'un emploi en RDC, monsieur le ministre.
Oui, je crois que le compatriote Alain Poutou qui vient de parler a saisi effectivement la problématique en expliquant les causes qui sont à la base du chômage des jeunes. Il y a cette inadéquation entre la formation et les besoins des entreprises, parce que, vous savez, nous avons hérité d'un système colonial et nous avons une certaine culture où nous, nos parents, se disaient, moi, mon enfant, pour que je sois satisfait, il faut qu'il aille à l'université, quel que soit ce qu'il va y faire, pourvu qu'il en sorte avec un graduat, une licence ou un doctorat. Mais les besoins des entreprises se situent ailleurs. Et au jour d'aujourd'hui, si nous avons réactivé la commission interministérielle l'enseignement technique et de la formation professionnelle, c'est parce que nous avons compris que nous devons répondre aux besoins des entreprises. Et nous mettons un accent sur les écoles techniques, sur les écoles des métiers. Et donc, quand vous regardez ce qui se passe, moi j'ai fait un tour dans certaines provinces, quand vous arrivez au Katanga, dans le secteur minier, vous regardez tous ceux qui conduisent les engins là, les engins lourds et autres, mais ils sont tous des expatriés. Est-il normal que dans ce pays, on puisse manquer des conducteurs d'engins? C'est parce qu'ils n'ont pas été...
Monsieur le ministre. On vous capte difficilement là. Si c'est possible de bouger un tout petit peu en même temps que vous parlez.
Ben, je vais bouger. J'espère que ça ira mieux.
Hein. Je vous en prie, allez-y.
Je disais que j'ai fait un tour dans les provinces. Je suis allé au fin fond du pays pour voir ce qui s'y passe. Mais quand vous arrivez dans les entreprises minières, vous constatez que les engins sont conduits pas exclusivement par des expatriés, des Asiatiques et autres. Mais quand vous posez la question, on vous dit il n'y a pas de personnel localement formé et qualifié. Et conséquence, ils sont obligés de recourir à une main-d'œuvre extérieure. Et c'est ce qui fait que nous devons effectivement revoir nos programmes d'enseignement pour adapter les enseignements aux besoins des entreprises, comme l'a si bien dit le compatriote Alain Poutou. Et je crois que ça, c'est l'une des causes majeures.
La deuxième
cause, c'est bien sûr le fait que nous sommes pauvres, il faut l'avouer. Il y a très peu d'entreprises, il y a très peu d'offres disons, très peu de demandes d'emploi, parce qu'on confond. La demande d'emploi vient de l'entreprise, l'offre d'emploi vient de celui qui cherche le travail.
Monsieur le ministre.
Et donc, comme il y a très peu de demandeurs d'emploi, donc très peu d'entreprises, conséquence, il y a un chômage.
Monsieur le ministre.
Vraiment, c'est le problème, effectivement, de la protection sociale qui doit faire de sorte qu'elle assure à ceux qui travaillent une bonne retraite. Et c'est pourquoi je mets l'accent sur la protection sociale. Vous avez suivi dernièrement, quand j'ai défendu le code de sécurité sociale au Sénat, j'ai insisté sur une protection sociale pour tous.
Monsieur le ministre, mais...
Nous ayons un système qui permette à ce que celui qui a rendu des services louables à la fin de sa carrière, il puisse continuer à vivre décemment grâce à sa pension.
Monsieur le ministre, mais Alain Poutou a également insisté sur le fait que l'État n'a pas une politique stratégique, il n'y a pas de politique stratégique au niveau du gouvernement en matière d'emploi des jeunes, mais on se souvient qu'il y a un programme, le PRO-IEN, un programme en partenariat avec la communauté internationale en ce qui concerne l'emploi des jeunes. Monsieur le ministre, quel est l'apport de ce programme?
Non, le programme fait déjà beaucoup de choses. Le fait d'abord de faire un état des lieux, le fait de recenser les jeunes chômeurs, le fait d'organiser des ateliers pour que les jeunes puissent eux-mêmes déjà capter les domaines dans lesquels ils peuvent être utiles et les domaines surtout qui sont créateurs d'emplois. Ils ont tenu un atelier à cet effet à la FIKIN et nous avons reçu leur rapport. Bon, évidemment, lorsqu'ils ont chiffré ça, bon, c'est des sommes énormes. Bon, je comprends que les jeunes gens ils prennent les millions avec beaucoup de facilité. Mais ce qui est important,
c'est
le contenu. Ce n'est pas nécessairement le coût de ces projets.
Merci, et donc, merci, monsieur le ministre.
Le PRO-IEN fait son travail. Mais je voudrais également dire qu'au niveau du ministère, nous sommes en train de travailler pour mettre la dernière main sur la politique nationale d'emploi. Pourquoi? Parce que effectivement, il faut que nous ayons une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.
Merci, monsieur le ministre. Merci, monsieur le ministre. Souffrez que je vous arrête là, le temps de donner la parole à d'autres intervenants. Entre-temps, notez que plus de 10 000 agents et fonctionnaires de l'État sont candidats à la retraite en RDC. Cependant, ces hommes et femmes presque de troisième âge sont obligés de garder leur poste dans différents services de l'État. Et pour cause, l'État n'est toujours pas en mesure de les envoyer à la retraite dans des conditions acceptables. Pourtant, selon le code de travail en RDC, tout agent et fonctionnaire âgé de 55 ans doit aller à la retraite. Côté gouvernement, on affirme être conscient de la situation et l'on rassure que la question sera résolue. Reportage Jacques-Yves Molima.
Ça ne tient plus. Je suis vraiment affaibli. J'ai 68 ans. On est contraint à continuer à travailler, à venir chaque matin, à signer les listes de présence. Je n'ai plus cette force-là.
C'est cette réalité qu'endure les agents et fonctionnaires de l'État en âge de la retraite en RDC, dans les hôpitaux, les institutions universitaires, les secrétariats généraux des ministères, partout, ils n'en peuvent plus.
Pourquoi on peut accepter à continuer à faire souffrir des gens qui ont tant souffert des années à travailler et qui sont juste là, mal payés et qui n'ont rien pour les retraites?
En effet, le salaire que touche un agent aujourd'hui ne lui permet mais pas d'espérer une retraite aisée. Alors, ils n'ont pas d'autre choix.
Au lieu de rester comme ça à la maison sans rien faire, sans rien à manger, c'est pourquoi ils sont en train de travailler.
Côté ministère de la fonction publique, l'on atteste que la mise à la retraite devrait attendre certains préalables eu égard à la réforme engagée. Il faut d'abord maîtriser l'effectif des agents et créer une caisse de retraite. Toutefois, avec les bailleurs de fonds, les démarches entassées avancées et plusieurs iront à la retraite dans des conditions assez bonnes. Mais les agents ne savent plus croire.
Souvent, le gouvernement déclare qu'il n'a pas les moyens. Mais si le bailleur de fonds dispose les moyens, c'est toujours les gens du gouvernement qui bouffent cet argent au détriment des retraités réellement.
Ainsi, des solutions urgentes s'imposent.
Merci Jacques-Yves Molima. Guy Colella, en même temps qu'on parle de l'emploi des jeunes, il y a des agents plus âgés qui devraient aller en retraite. Et vous avez évoqué cette question, mais aujourd'hui, quelle est la situation d'un retraité en RDC?
La situation des retraités aujourd'hui en RDC n'est pas bonne parce que vous-même, j'ai suivi tous ceux qui m'ont précédé dans ce qu'ils disent là, c'est du vrai. Parce que quand on doit partir en retraite, c'est-à-dire on a travaillé, on s'est préparé pour partir. Et quelque part, notre travail aussi des syndicalistes n'est pas facilité. Pourquoi? Parce que nous allons vers l'employeur. On a préavisé. Il est temps. Mais il sait pas partir. Mais quelque part, moi je ne suis pas pessimiste. Moi je suis ces hommes optimistes. Je me dis, parce que aujourd'hui, il y a des efforts pour maîtriser les effectifs. Ils les font déjà. Je pense que petit à petit, il faudrait que le gouvernement se dise, je dois commencer à me débarrasser, pas à me débarrasser, à remercier ceux qui ont rendu de loyaux services à la nation. Par exemple, avec les fonctionnaires. Au lieu de toujours dire on n'a pas de moyens, on n'a pas de moyens, je me dis non, il faudrait, dans ces efforts qu'ils sont en train de fournir, parce que j'ai toujours dit que notre pays, tout est prioritaire. tout est prioritaire. Alors faisons en sorte que ceux-là qui se disent « moi je vais déjà partir », si le gouvernement peut fournir encore des efforts pour les dire « ok, merci, vous avez rendu de loyaux services », ce serait aussi aider les syndicalistes et ouvrir le champ de l'emploi pour les jeunes qui sont en train de venir, qui terminent leurs études.
Mais il y a toujours ce problème de moyens, Guy Colella. Il y a des gens qui ont passé 30, 40 ans dans certaines entreprises et à la fin, on leur propose une somme modique pour aller en retraite et même avec certains organismes, au lieu d'une telle somme, on divise cette somme-là par 3 ou par 4 et c'est très compliqué.
Oui. C'est très compliqué. Pourquoi? Parce que d'abord, la base sur laquelle on calcule le salaire, il est moindre. Je l'ai dit hier, le 1er mai, je n'ai évoqué que les fonctionnaires. Ce n'est pas seulement les fonctionnaires qui n'est pas bien payé. J'ai dit aujourd'hui, ils sont régulièrement payés, mais si le gouvernement pouvait revoir à la hausse. Même dans des entreprises que nous disons privées, là-bas aussi il y a des problèmes. Ne vous en faites pas. Mais moi, je connais une entreprise où ils étaient dans une situation chaotique, mais parce qu'il y avait une volonté de gérer, une volonté de dire « ok, vous avez rendu de loyaux services » et on les avait remerciés, ils étaient partis. Si vous voulez que je vous cite l'entreprise, je vais vous citer.
Non, on n'est pas là pour ça, okay. Guy Colella. Mais il y a Unen Kan Jarie Kongwa qui nous écrit de Mahagi en province orientale qui dit « Engager les nouveaux travailleurs est une bonne chose, mais selon moi, je pense que le gouvernement devrait faire appel simplement aux investisseurs étrangers crédibles qui pourront absorber un nombre considérable des chômeurs en vue d'améliorer les conditions de vie des Congolais. »
Moi, j'ai dit le 2, c'est-à-dire les efforts du gouvernement d'améliorer les conditions des affaires vont appeler les privés pour créer de l'emploi. Mais dans l'entretemps, ceux qui doivent partir en retraite, ceux qui sont en âge de partir en retraite, il faudrait que l'État aussi puisse leur dire « ok, vous êtes en âge de partir en retraite, on vous a préavisé, prenez votre cagnotte, partez ». Donc il faut marier les deux.
Marier les deux. Alain Poutou, dans le rapport que j'ai cité tout à l'heure, qui s'intitule « Perspectives économiques en Afrique 2012 », parmi les défis à relever, il y a évidemment cette affaire de retraite dont on vient de parler ici, mais il propose aussi comme solution notamment que l'État devrait avoir une politique en matière d'emploi. Il faudrait encourager l'auto-entreprise par la formation et un accès accru au crédit, Alain Poutou.
Oui, c'est ça. Ça, c'est une bonne proposition, mais je pense que l'État aussi, à son niveau, je suis vraiment d'accord que les ministres puissent accepter les choses qu'elles sont, parce que nous devons avoir aussi l'honnêteté professionnelle. Vous savez, le problème du chômage, c'est comme je vous ai dit, aujourd'hui, l'État peut faire venir les investisseurs. Ces investisseurs-là, ils vont mettre en jeu leur argent. Ils auront besoin des usures, mais il faut d'abord commencer par la formation. Préparer les gens, reformuler les systèmes éducatifs. Il y a des cours inutiles qui se donnent à l'université, je vous dis. Même aujourd'hui, vous formez les gens, vous allez voir, il y a plusieurs universités, instituts supérieurs. Telle université forme des gens en médecine, telle université forme des gens en droit. Est-ce que vous avez posé la question aux gens qui doivent les consommer, qu'ils ont réellement besoin de ces gens-là? On a fait croire aux gens que pour devenir quelqu'un dans la vie, il faut passer par l'université. Je vous dis que je viens de mettre en place un article dans les éditions L'Avenir. J'ai intitulé ça « L'université m'a déçu ». Pourquoi? Parce que quand on va à l'université, les gens pensent qu'ils vont devenir quelqu'un. Mais l'aspect-là de la formation professionnelle, comme le ministre vient de le dire, l'aspect-là de l'entrepreneuriat, quand quelqu'un finit, il y a la question qu'il faut se poser. Après l'université, je vais devenir qui? Là, on ne pose pas la question. Même l'université, lorsque les gens arrivent, ils ne l'expliquent pas les gens. C'est-à-dire, vous faites telle faculté, voilà les débouchés, là, on ne tient pas compte. Donc, il faut maintenant reformuler le système éducatif, mettre un accent sur l'entrepreneuriat. Vous allez voir quelqu'un licencié en gestion financière, mais dans la vie normale, il est en train de lutter même pour trouver l'argent. Pourquoi? Parce que il est allé étudier comment gérer l'argent d'autrui, mais n'a pas étudié comment faire de l'argent, comment produire. Donc il faut mettre l'accent sur l'entrepreneuriat. Et l'université doit être normalement selon les besoins. L'État doit voir, il a besoin de combien d'universitaires, pour quel secteur. Comme ça, on forme les gens par rapport à ça. Au lieu de continuer, n'est-ce pas, de former des gens tels qu'on les fait là, Je pense que ce qu'ils ont reformulé dans leur rapport, ils ont raison. Il faut réforme du système éducatif, mettre l'accent sur l'entrepreneuriat. Parce que moi, si vous dites non, l'État ne fait rien, l'État doit amener les investisseurs. Oui, mais d'abord la formation. Avant que les investisseurs arrivent, formez d'abord les gens selon les besoins de ces investisseurs. Et après, vous pouvez maintenant demander à ces investisseurs-là de recruter des. Et aussi, il y a quelque chose que je remarque ici. Il n'y a pas la commission nationale de suivi des recrutements. Les offres d'emploi sont publiées. Parfois, il y a des offres qu'on amène à l'ONEM. L'ONEM vise les offres. On affiche, mais l'ONEM ne connaît même pas. On a recruté qui? Et il y a des gens qui n'ont pas aussi des cartes de demandeur d'emploi qui se font recruter. L'ONEM n'a pas de statistiques. Normalement, si le ministre veut à tout prix réussir sa vision par rapport à la réduction du chômage, moi je vais demander au ministre de créer une commission nationale de recrutement. C'est-à-dire cette commission-là doit suivre de près les offres d'emploi qui sont affichées. On a recruté.
Alain Poutou.
Je veux vous dire, moi je passe dans des universités, j'anime des conférences sur les techniques de recherche d'emploi. Quelqu'un m'a dit ça il y a une semaine passée, il dit il y a des offres qu'on affiche là, on passe les tests. Mais les gens qu'on recrute, ce ne sont pas les gens qui ont passé les tests.
Merci Alain Poutou.
On a trouvé qu'il n'y a pas un suivi.
Merci Alain Poutou. Monsieur le ministre Modeste Bahati, il nous reste moins de 4 minutes pour terminer cette émission. Parmi les propositions pour améliorer l'emploi des jeunes, il y a le rapport que j'ai cité tout à l'heure, propose notamment l'intégration des Congolais expatriés, l'utilisation de leurs compétences et de leurs ressources. Monsieur le ministre, brièvement pour terminer.
Oui, d'abord, je me félicite de mes deux co-débatteurs parce qu'ils font des propositions très utiles qui nous serviront sûrement. Lorsqu'on parle de la Commission nationale de recrutement, je me dis, c'est un rôle que l'ONEM doit jouer. Et c'est pour cette raison que j'ai insisté auprès des patrons d'entreprises pour qu'ils puissent contribuer au budget de fonctionnement de l'ONEM, pour l'amener à bien jouer son rôle. Deuxièmement, pour répondre à votre question, nous avons un programme au niveau du ministère qu'on appelle MIDA. C'est un programme migration internationale pour le développement en Afrique, en collaboration avec l'OIM, l'Organisation internationale des migrations. En fait, l'objectif, c'est de faire venir nos compatriotes qui sont dans la diaspora, qui ont une expérience, qui ont une technicité, et qui peuvent venir ici rendre d'énormes services. On a déjà fait cela dans le domaine de l'enseignement, dans le domaine médical, dans le domaine agricole. Et on doit poursuivre ce programme-là.
Alors,
malheureusement, les crédits sont arrivés à échéance parce que c'est le gouvernement belge qui finançait.
Alors, monsieur le ministre.
Nous allons voir comment inscrire ce projet-là au budget propre de la République pour que nous-mêmes nous puissions continuer ce projet-là.
Alors, monsieur le ministre, un mot par rapport aux retraités qui sont en train de vous suivre et qui aimeraient entendre.
Les retraités, tout ce que je peux leur dire tout à l'heure, je parlais du code de sécurité sociale. J'ai en même temps défendu la loi sur les mutuelles pour répondre aux préoccupations liées à la santé et aussi aux problèmes de la pension. Eh bien, dans le code de sécurité sociale, il est prévu une meilleure prise en charge des retraités. Mais ce que je dois leur dire, quand on travaille, il faut consentir une partie de la rémunération pour préparer la retraite. Or,
Merci, monsieur le ministre.
Vous n'aurez que très peu à la fin de votre carrière.
Merci, monsieur le ministre. Guy Kolela, il faut déjà conclure. Qu'est-ce que les travailleurs qui sont en train de vous suivre peuvent retenir en tant que président de la Confédération syndicale du Congo?
Oui, merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je me dis, pour les jeunes, je suis d'accord avec l'entrepreneuriat. Je me dis, ce n'est pas tout le monde qui doit aller à l'université. Si on peut encourager la formation professionnelle, je crois que notre pays a besoin de cela. Ce qu'on est en train de faire à l'IMETE, je pense que si on peut avoir encore des initiatives comme ça à travers le pays, ça va nous aider. Pour les jeunes d'abord.
Et pour les retraités,
et pour
très
les
rapidement.
Pour les retraités, je me dis, d'abord l'État qu'il fournisse beaucoup d'efforts pour se désengager de ceux qui sont déjà admis à l'âge de la retraite.
Alain Poutou, juste un mot pour terminer. Un mot, je vous en prie.
Oui. Pour les retraités, je vais demander aussi qu'on mette en place un programme de la prise en charge des personnes retraitées, c'est-à-dire avant de retraiter les gens, on doit quand même les former sur la création des richesses.
Merci. C'était juste un mot, Souffrez que je vous arrête. C'est par vous que nous terminons cette émission. Merci, monsieur, d'y avoir participé et merci à vous de nous avoir suivis. Restez branchés sur Radio Capi. Au revoir.